Bonjour. Le groupe État islamique revendique l'attaque au couteau d'hier soir en plein centre de Paris. Une attaque qui a fait un mort et quatre blessés. L'agresseur est un Tchétchène d'une vingtaine d'années sans antécédent judiciaire. On fait le point sur l'enquête dans un instant. Dans ce journal également, un restaurant McDonald's de Paris occupé par ses salariés grévistes. Un retour sur le 13 mai 1968. Cette grande manifestation étudiante et ouvrière qui marqua un tournant dans le joli mois de mai. Et l'Italie qui attend toujours de savoir à quoi ressemblera son gouvernement anti-système promis par le mouvement 5 étoiles et l'extrême droite. La France paye le prix du sang à nouveau, mais elle ne cédera pas un pouce aux ennemis de la liberté. La première déclaration d'Emmanuel Macron hier soir, après donc cette attaque au couteau perpétrée dans le centre de Paris, le quartier des théâtres et de l'opéra. Dans la rue Monsigny, peu avant 21h, l'agresseur a égorgé un jeune homme de 29 ans qui est décédé. Il a ensuite blessé quatre autres passants avant d'être abattu par une patrouille de police secours. Dans la foulée, le groupe État islamique a fait savoir que l'homme au couteau était, je cite, un soldat du califat qui frappait la France pour sa participation à la coalition en Irak et en Syrie. Ce matin, on en sait un peu plus sur l'identité du terroriste Stéphane Père.
Oui, l'enquête menée par la section terroriste de la brigade criminelle de Paris a avancé significativement cette nuit avec l'identification, oui, du terroriste de la rue Monsigny. Il s'agit d'un ressortissant russe né en Tchétchénie en 1997. Il est donc âgé de 20 à 21 ans. Je vous rappelle qu'il ne portait pas de papier sur lui. Les enquêteurs ont donc cherché cette nuit à déterminer son identité. Ils ne l'ont pas identifié, semble-t-il, par ses empreintes digitales, mais par un autre moyen, nous explique une source policière ce matin. Cet homme n'a pas d'antécédent judiciaire. On ne sait pas encore s'il était connu des services de renseignements. L'autre information importante, c'est que les deux parents de cet homme ont été appréhendés cette nuit par les services de police et sont actuellement en garde à vue.
Et j'ajoute, Stéphane Berg, que le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb va présider dans les prochaines heures une réunion d'état-major pour passer en revue les mesures de sécurité antiterroriste. Le pouvoir autour du président Emmanuel Macron doit affirmer sa réponse face à cette menace terroriste toujours active, selon l'ancien député LR et ex-président de la commission parlementaire consacrée aux attentats de Paris en 2015, Georges Fenech.
Nous voyons que ces actes de terrorisme qui sont en fait réalisés avec peu de moyens, un couteau qui font des victimes, qui font des morts, peuvent se produire à n'importe quel moment, sur n'importe quel point du territoire. C'était la province, aujourd'hui c'est Paris. Ce qu'il faut, c'est évidemment maintenir un niveau de vigilance extrême, ne pas renoncer aux promesses qui avaient été faites, aux engagements notamment du président de la République, du garde des Sceaux, de créer une véritable structure du parquet national antiterroriste. On dit que l'idée serait peut-être abandonnée. Je pense qu'il ne faut pas du tout baisser la garde, que nous sommes sur plusieurs années, qu'il va falloir lutter. Il y a un plan national anti-radicalisation qui a été annoncé par le Premier ministre. Il faut le mettre en œuvre. Il faut toujours mettre le niveau de vigilance au plus haut niveau.
Georges Fenech au micro France Info de Pierre Neveu. On connaissait les occupations d'université par les étudiants mobilisés contre la réforme de l'accès à l'enseignement supérieur. Et bien depuis deux jours, c'est un fast-food parisien de la chaîne McDonald's qui est occupé par ses salariés en grève. Ça se passe boulevard Magenta, près de la gare de l'Est. Les salariés exigent une revalorisation de leur salaire et un 13e mois. Un combat pour l'égalité dans la répartition des richesses chez le géant américain. C'est ce que nous explique Gilles Bombard. Il est secrétaire général de la CGT McDonald's Paris-Île-de-France.
Il est quand même incroyable que d'un restaurant à un autre, on constate que les salariés ont la même tenue, vendent les mêmes sandwichs, pourtant ils n'ont pas du tout les mêmes droits. Dans un restaurant, les salariés vont avoir un 13e mois, des primes, des chèques vacances parce qu'ils ont un CE. Donc s'ils ont un CE, c'est qu'ils ont une représentation syndicale. Et dans un autre restaurant, il n'y aura absolument rien. La réalité, c'est que la richesse de McDonald's n'est pas du tout partagée avec l'ensemble de ses salariés. Les profits qui sont réalisés par les restaurants sont délocalisés vers des paradis fiscaux pour ne pas avoir à payer l'impôt qui doit être payé. Résultat, c'est le salarié qui passe à la caisse puisque c'est lui qui doit payer l'impôt que son employeur ne paye pas et le salarié ne peut pas récolter finalement les fruits de son travail. Donc la richesse, elle existe et nous voulons, nous, que cette richesse puisse permettre à l'ensemble des salariés de bénéficier d'un salaire de base à 13 euros de l'heure. Cela est possible. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les salariés, par la lutte, ont pu réussir à plus que doubler leur salaire. Ils étaient payés 7 $ de l'heure, ils sont maintenant payés 15 $ de l'heure.
Des propos recueillis par David Ravier et les salariés du McDonald's du boulevard Magenta qui ont reçu hier le soutien d'autres mouvements contestataires, étudiants, syndicaux, politiques, au cours d'une assemblée générale interlutte. De quoi alimenter cette idée d'une convergence des luttes sociales au moment où l'on commémore ce dimanche les 50 ans du 13 mai 1968, la journée de l'unité, celle où le mouvement étudiant a rejoint celui des ouvriers et a débouché sur les grandes grèves qui ont paralysé par la suite tout le pays. C'était 2 jours après la nuit des barricades dans le quartier latin, une journée décisive pour mai 68, Maïwenn Bordron.
La date n'a pas été choisie au hasard. La manifestation est organisée 10 ans jour pour jour après le retour au pouvoir de Charles de Gaulle. Les étudiants et les ouvriers ont des revendications différentes, mais ils s'accordent sur la remise en cause du régime gaulliste. Ça n'a pourtant pas été simple de trouver un terrain d'entente. La CGT refuse de manifester auprès des étudiants, comme l'explique l'historienne Michel Zancarini-Fournel.
Ils sont opposés à ce que Georges Marchais appelait dans un article de l'Humanité du 3 mai, des groupes gauchistes qu'il fallait rejeter parce que ils prétendaient, par exemple, discuter avec les ouvriers, alors que le représentant de la classe ouvrière, c'était la CGT et le Parti communiste français à l'époque.
Les étudiants trouvent finalement un compromis. Ils se réunissent d'abord Gare de l'Est et rejoignent ensuite les ouvriers, place de la République. L'immense foule défilera jusqu'à Denfert-Rochereau. Les organisateurs annoncent 1 million de manifestants, la préfecture de police 200 000. Après le 13 mai, l'unité au niveau des directions syndicales vole en éclats, mais cette journée reste un succès. Alain Gesmard était en tête de cortège ce jour-là. Il était alors secrétaire général du SNESUP, un syndicat enseignant.
Le relais est pris non pas par des confédérations, mais par la base dans les grèves qui sont des grèves spontanées, qui n'obéissent à aucun mot d'ordre central. Parce que le mouvement s'étend à partir d'en bas et pas d'en haut.
Conséquence directe de la manifestation du 13 mai, le lendemain, la première usine est occupée à Bouguenay, près de Nantes.
Maïwenn Bordron qui signe un dossier sur ce 13 mai 1968 sur franceculture.fr. Des événements également à revivre en temps réel 50 ans après, tout au long de la journée, sur notre compte Twitter. Il est 9h07 sur France Culture, l'actualité internationale marquée également par l'ombre du groupe État islamique. En Indonésie, 3 églises de Surabaya à l'est de Java ont été visées ce matin par des attentats suicides qui ont fait au moins 9 morts et 40 blessés. 3 attaques coordonnées encore non revendiquées dans un pays, l'Indonésie donc, où Daesh avait revendiqué cette fois son rôle il y a quelques jours dans une mutinerie dans une prison haute sécurité de Jakarta. En Italie, ce n'est apparemment pas ce dimanche que l'on verra se former ce gouvernement anti-système que nous promet la Ligue, l'extrême droite, avec le mouvement 5 étoiles. Les vainqueurs des élections de mars dernier peinent toujours à boucler leurs négociations qui pourraient ne pas aboutir avant la semaine prochaine. On fait le point depuis Rome avec Antonino Gallofaro.
En chœur, Luigi Di Maio et Matteo Salvini, les leaders du mouvement 5 étoiles et de la Ligue, assurent qu'ils discutent des thèmes, des points de convergence à insérer dans ce qu'ils ont baptisé leur contrat pour un gouvernement du changement. Ils n'auraient donc pas cherché hier à se mettre d'accord sur la personne qui devra mettre en œuvre ce programme commun. Hier, ils se seraient entendus sur une première version du texte. Les négociations doivent se poursuivre. Il n'est donc pas certain qu'elles aboutissent aujourd'hui. Les équipes poussent de chaque côté sur les points du programme, chers à l'un et à l'autre parti. Le revenu universel sur lequel on fait campagne les 5 étoiles devrait en faire partie, comme la flat tax, l'impôt sur le revenu à taux unique à 15% de la Lega. Il y aurait aussi une entente sur la lutte contre la bureaucratie, sur la réduction des coûts de la politique, sur une position plus dure sur l'immigration et sur la renégociation des traités européens, mais aucune précision n'est apportée. Les deux hommes, grands gagnants des élections législatives du 4 mars, sont en passe de former le premier gouvernement anti-système d'Italie, une première à la tête d'une des principales puissances européennes et pays fondateurs de l'Union, mais ce faisant, ils jouent avec les nerfs du président de la République. Sergio Mattarella s'est montré impatient hier, quand il a rappelé indirectement que son rôle n'était pas celui d'un notaire. Comme les Italiens, il attend toujours la présentation d'un gouvernement et d'un premier ministre.
Un geste intelligent et aimable. Voilà comment Donald Trump qualifiait cette nuit l'engagement pris par Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen qui annonçait qu'il aura terminé le démantèlement de son site d'essai nucléaire le 25 mai, quelques jours donc avant la rencontre prévue avec le président américain le 12 juin à Singapour. Les experts nucléaires occidentaux restent tout de même prudents sur la portée de ce démantèlement, geste de bonne volonté de Pyongyang pour un site qui ne semblait plus utilisé. Il pourrait s'agir d'une manière de faire disparaître les des preuves du programme nucléaire militaire nord-coréen. La météo, enfin, c'est aujourd'hui la Saint-Servais, c'est le dernier des Saintes Glaces et Météo France maintient une vigilance neige, vigilance orange pour les départements du Cantal, de la Lozère, de la Haute-Loire et de l'Ardèche. Ailleurs, il sera bien difficile d'échapper à la pluie ce matin. Elle devrait tout de même s'estomper en fin de journée sur le quart nord-ouest.